Bien, laissez-moi d'abord remercier les organisateurs de cette belle journée, eh bien, d'avoir eu cette initiative sur un sujet extrêmement intéressant, et de les remercier de m'avoir invité à prendre part à ces débats. Pour imiter un peu l'un des orateurs qui est intervenu deux fois, M. Camus, je commencerai par la conclusion. Incontestablement, cette distinction de la police administrative et de la police judiciaire tend à se brouiller, tend à devenir poreuse, comme on dit, mais derrière le mot poreux, il y a plutôt confusion plus que interconnexion et interrelation. Et par conséquent, on pourrait être tenté de considérer que cette distinction n'a plus cours et qu'il faudrait fondre les deux polices en une seule et les deux juges en une seule juridiction, etc. Ce sont des idées qui ont été émises à plusieurs reprises de façon un petit peu légère, en pointillé, parce que la chose est grosse, évidemment. C'est donc une distinction qui est contestable à certains égards, à de nombreux égards probablement, mais en réalité, elle doit être maintenue. Et je vais essayer d'appliquer à identifier les raisons pour lesquelles il faut la maintenir. Mais d'abord, évidemment, je dois reconnaître, comme tout le monde, que cette distinction entre police judiciaire et police administrative est en crise aujourd'hui. Cela dit, ce n'est pas un drame que des notions juridiques soient en crise. On peut dire que l'état de crise est l'état normal pour les concepts juridiques, pour les notions juridiques, tout simplement parce que ces concepts juridiques, comme les règles qui les portent ou qui les utilisent, s'appliquent à des réalités qui sont elles-mêmes mouvantes, évolutives. Et il arrive forcément à un certain moment que, si elles s'appliquent à des conditions nouvelles, ces règles anciennes ou ces concepts anciens, ces notions anciennes, en viennent à ne plus saisir en réalité, ce qu'elles étaient destinées à saisir. Donc c'est normal, ce n'est pas grave en soi. D'autre part, il n'est pas aussi étonnant que cela pourrait paraître qu'il y ait une sorte de crise, que cette distinction entre en crise aujourd'hui, parce qu'elle n'était peut-être pas aussi claire qu'on l'a dit au moment où on l'a mise en avant avec cette jurisprudence Beau de 1951. Elle n'était pas si impeccable que cela, cette distinction et ce critère finaliste lui-même non plus. Donc, la valeur qu'on lui a prêtée à cette époque était probablement certaine, parce qu'elle mettait un peu d'ordre dans cette distinction, où on s'était perdu avec les critères formels, les critères organiques, les critères procéduraux, etc. Donc, elle avait certainement de la valeur à ce moment-là. Mais on a peut-être été aveuglé par cette valeur sans voir justement les insuffisances et les inconvénients de ce critère. Alors, pour se rendre compte de toutes ces vicissitudes et de l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, je crois qu'il faut refaire un peu l'histoire de cette distinction et l'histoire de ces approximations, en se posant quelques questions comme celle-ci. D'où provient donc cette dualité des polices? Qu'est-ce qui l'a déterminée ou imposée? Dans quel contexte politique et juridique? Et quel est le problème essentiel? Eh bien, adopter cette démarche, je crois, nous permettra de montrer que le fondement de cette distinction s'est fragilisé au fur et à mesure des décennies. Je dis bien des décennies parce que nous sommes dans l'histoire d'un temps long. Elle nous fera apparaître, cette démarche, que le critère de cette distinction a toujours été marqué d'une certaine ambiguïté qui n'a pas été suffisamment relevée et dont on se trouve les victimes aujourd'hui dans la complexité des procédures en cours. Et puis, enfin, cette approche historique nous fera apercevoir que le contexte d'application de cette dualité des polices, ce contexte d'application s'est bouleversé en une ou deux décennies, les dernières, celles que nous connaissons, au point que cette dualité, cette distinction, ne paraît plus aujourd'hui aussi pertinente qu'elle a pu être auparavant. Un fondement fragilisé, un critère ambigu, un contexte bouleversé. Un fondement fragilisé. Chacun sait que la dualité police-judiciaire-police administrative trouve son fondement originaire, toujours invoqué, dans le principe de séparation des autorités judiciaires par rapport à l'administration, des autorités administratives, posées par la loi des 16 et 24 août 1790, toujours en vigueur en ces articles pertinents, qui interdisent à l'administration de se mêler de la justice et à la justice de se mêler de l'administration. principe de séparation qui veut être lui-même une application du principe de la séparation des pouvoirs, posé en 1789, mais qui en réalité, ce principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, qui a des racines culturelles bien plus anciennes, car il remonte en réalité à l'Ancien Régime depuis au moins l'édit de Saint-Germain-en-Laye de février 1641, adopté par le roi Louis XIII. Ce principe de séparation des autorités judiciaires et administratives a conservé dans notre culture la valeur d'un mythe. Il en a la puissance évocatrice, mais aussi, paradoxalement, il en a l'irréalité, une certaine irréalité, il faudrait peut-être dire une certaine idéalité. On s'est transmis ce principe de génération en génération avec une certaine piété culturelle, avec une sorte de conviction libérale selon laquelle l'administratif, l'administration et donc l'exécutif, doit sans doute échapper au juge judiciaire, puisqu'il était seul à exister à cette époque-là, mais qui ne doit pas y échapper lorsqu'il s'agit de questions importantes dans cette culture, c'est-à-dire les questions de liberté individuelle, de propriété et de domicile, pour lesquelles le juge judiciaire est compétent, doit être compétent et dont la compétence doit être maintenue. Et il est resté de cette époque, à laquelle il n'y avait pas encore de juge administratif, il est resté de cette époque un double dogme. D'abord le dogme selon lequel, c'est un dogme négatif celui-ci, selon lequel l'administration et toutes les activités administratives sont juridiquement suspectes, parce qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel à cette époque. Et puis un autre dogme, celui-ci est un dogme positif, selon lequel l'essentiel des libertés, des droits, est préservé, puisque le juge judiciaire reste compétent à leur propos. Et l'invocation de ce double dogme s'est maintenue, et c'est ça le problème, il s'est maintenu alors même que la juridiction administrative est née, elle s'est développée, et elle a étendu son contrôle sur toutes les activités administratives, y compris la police. La plus caractéristique de la puissance publique, c'était donc une grande victoire. Au point d'offrir une protection des droits au moins équivalente à celle procurée par le juge judiciaire, voire supérieure à certains égards. Ainsi, on a continué ponctuellement à admettre la compétence judiciaire pour des activités administratives. Le droit de contrôler, de vérifier les identités aujourd'hui constitue un exemple assez topique de cette situation, parce que le contrôle ici est assuré par l'autorité judiciaire, alors que le contrôle peut être administratif. Mais en même temps, le pouvoir politique a joué, tout au long de ces années, il a joué d'une illusion, en laissant penser que l'intervention d'une autorité judiciaire, je dis bien autorité judiciaire, dans une procédure quelconque, était de nature à protéger les droits et les libertés. Alors que l'autorité judiciaire en question, le procureur, ne répond pas aux critères que la CEDH exige pour caractériser une autorité judiciaire. Donc, aujourd'hui, le fondement de la dualité police-judiciaire-police-administrative est fragilisé, car rien n'assure que la compétence administrative soit inférieure à la compétence judiciaire et que la compétence judiciaire soit plus protectrice des droits et des libertés. Alors, si c'est cela, si les protections sont équivalentes, pourquoi continuer à défendre la survivance de cette dualité ? Pourquoi deux juges ? Pourquoi deux droits différents ? Pourquoi deux types de police ? Un seul juge, une seule police devrait suffire. Et qu'elle soit indifféremment judiciaire ou administrative, cela n'aurait pas d'importance. À ce fondement de plus en plus fragilisé, au fur et à mesure que le degré de protection juridictionnelle s'est développé, à ce fondement de plus en plus fragilisé, s'ajoute une prise de conscience, un peu tardive, selon laquelle le critère de la distinction entre les deux pôles ne s'avère pas si clair que cela. Il apparaît même assez ambigu. Un critère ambigu. Certainement, la substitution en 1950 d'un critère finaliste aux critères formels antérieurs a été un élément de clarification et tout le monde s'en est réjoui. Mais d'une part, toutes les situations ne sont pas justiciables d'un critère finaliste. Mais ce n'est pas trop grave. D'autre part et surtout, la formulation de ce critère n'est pas absolument claire. Elle apparaît même assez incertaine. Et ce critère finaliste est d'ailleurs, quand on consulte les ouvrages, est formulé de façon différente selon les auteurs, et même c'est quelquefois selon les décisions. Donc tout d'abord, toutes les situations ne sont pas justiciables du critère finaliste, même après que l'arrêt Beau, la jurisprudence Beau de 1951, ait été établie. Ainsi, le juge administratif est resté compétent en matière intéressant la police judiciaire lorsque la victime de la police judiciaire est un collaborateur permanent ou occasionnel de la police judiciaire. Il y a une jurisprudence Pinguet qui l'atteste, une jurisprudence Giry qui paraît revenir sur la question, mais qui n'est pas encore extrêmement claire sur ce sujet-là. De même, en matière de barrages routiers, il y a un bloc de compétences administratives, car le but de ces barrages n'est pas toujours univoque. Il peut y avoir le sens d'une mesure de surveillance, mais aussi il peut être destiné à rechercher tel délinquant. Alors on peut, je ne vais pas rentrer ici dans la discussion, si vous voulez, des portées des arrêts, je vous en fais grâce, évidemment. Et puis, il y a des actes détachables de l'opération de police judiciaire. Détachables parce qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'exécution de la mesure de police judiciaire. Par exemple, lorsque l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire commet un vol sur les effets d'une personne qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Les brutalités. Donc, vous voyez, il reste de la compétence administrative, même lorsque la police est judiciaire. C'est un élément de complexité. Inversement, la compétence peut être judiciaire, même si l'opération est administrative, on l'a vu abondamment. Mais ça peut être le cas aussi lorsque l'agent a commis une faute personnelle, la compétence est naturellement judiciaire. Ça peut être évidemment dans tous les cas dans lesquels on applique le principe selon lequel le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle. Contrôle d'identité, visite, perquisition, hospitalisation d'office, etc. Et puis, en cas de voie de fait également. Alors évidemment, le cas de voie de fait exclut que ce soit un acte administratif, puisque précisément, il n'en présente pas les caractères. Mais en tous les cas, le juge, alors, peut être judiciaire à l'occasion d'une mesure administrative, lorsqu'elle perd sa qualité de mesure administrative, parce qu'elle est précisément en violation d'une liberté fondamentale. Il y a des cas dans lesquels la nature administrative ou judiciaire de l'acte ne peut être déterminée par application du critère finaliste. Les actes de constatation des délits spéciaux. Ce n'est ni judiciaire ni administratif. Les décisions relatives au refus du déclenchement des poursuites pénales. On pourrait penser qu'on est près du pénal et par conséquent que la compétence devrait être judiciaire. Mais non, pas du tout, puisque c'est une décision négative prise par une autorité administrative de ne pas poursuivre. Et là, évidemment, on est dans l'embarras. Mais surtout, la formulation du critère n'est pas absolument claire, et c'est là l'élément déterminant. Parce que les deux mots qui résument cette distinction, ou ce critère, préventif, répressif, ces deux mots sont équivoques l'un et l'autre. Ils sont équivoques tant que l'on ne précise pas ce par rapport à quoi quelque chose est préventif ou répressif. Et puis, il y a un autre élément qui joue aussi, qui embrouille le langage, c'est que la valeur ou la portée axiologique de ces mots est en droit, dans le langage du droit, veuillez-je dire, inverse de celle qu'on lui reconfère dans le langage ordinaire. En effet, pour commencer par le second point, préventif représente une valeur positive dans le langage ordinaire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux empêcher quelque chose de nocif que de laisser faire. Le problème, c'est que alors, ce que l'on empêche en adoptant une mesure préventive, c'est la liberté. Ce pourquoi le régime préventif est moins favorable que le régime répressif, malgré la confusion que cela peut entretenir dans les esprits. Le régime préventif est moins favorable que le régime répressif, parce que le régime préventif laisse la liberté s'exercer sous la responsabilité du sujet. Enfin, le régime, excusez-moi, vous voyez, je confonds moi aussi, le régime répressif est supérieur pour la protection des libertés parce qu'il laisse au sujet le droit d'exercer sa liberté sous sa propre responsabilité. De sorte que dans le langage du droit, répressif est plus favorable que préventif, et le régime le plus préventif en droit, c'est le plus répressif en matière politique, puisqu'il faut évidemment alors subordonner l'exercice de cette activité à une autorisation préalable. Et tant qu'on n'a pas l'autorisation préalable, on ne peut pas exercer la liberté. Donc c'est extrêmement répressif politiquement. Et puis, pour envisager maintenant la première cause d'ambiguïté, la question est de savoir par rapport à quoi il faut se demander si la mesure ou l'opération est préventive ou répressive. Est-ce qu'elle est préventive ou répressive par rapport à un trouble à l'ordre public, ou par rapport à l'exercice d'une liberté, ou par rapport à une infraction? Et quand vous regardez le discours des ouvrages, des manuels, des notes, etc., vous avez un changement constant de référence. On ne fait plus attention à ça, on dit indifféremment, ordre public, infraction, etc. Sans compter que le mot préventif ne s'oppose pas seulement à répressif, mais aussi à curatif. Et la police peut être curative, administrative. En réalité, le terme de référence est différent selon le caractère préventif de l'acte, de l'opération en cause. Le caractère préventif est apprécié par rapport à un trouble à l'ordre public et le caractère répressif par rapport à l'infraction. Mais il faut relever, comme on l'a fait tout à l'heure, comme élément de complexification, que le Conseil d'État et la Cour de cassation n'ont pas exactement la même façon de raisonner, l'un étant naturellement plus favorable à sa propre conception, donc à une conception extensive de l'ordre public et de la police administrative, et l'autre, le juge judiciaire, développant plutôt une conception assez extensive de la police judiciaire. On le voit, on l'a vu tout à l'heure encore, à propos de la question de l'interprétation de la notion de liberté individuelle. Et puis, au fond, si l'on tente de synthétiser toute cette jurisprudence abondante, les critères de détermination de la nature judiciaire ou administrative de l'opération ou de l'acte sont quelque peu différents. Il faut en effet considérer l'objet de l'opération, l'objet de l'acte. Si l'opération est en réalité avec, est en relation pardon, avec une infraction réelle ou supposée, cet acte ou cette opération relève de la police judiciaire. Mais si l'opération ou l'acte n'est pas en relation avec une infraction réelle ou supposée, elle constitue une mesure de surveillance générale tendant à s'assurer que l'ordre public est respecté, tendant à prévenir les troubles à l'ordre public ou aussi tendant à rétablir l'ordre public. Dans ces cas-là, l'acte relève de la police administrative. Le problème, la cause du désordre ou des désordres conceptuels actuels relatifs à cette distinction, tient à un fait assez simple et non souligné. Il est souvent dit, depuis le code Brumaire de l'Ancat, du 3 Brumaire de l'Ancat, 1795, il est souvent dit et répété que la police administrative tend à prévenir les délits, c'est ce que dit l'article 19 de ce code. Et le point de confusion est là. Si la police judiciaire a pour objet une ou des infractions pour la constater, pour rassembler les preuves, pour en rechercher les auteurs, afin de déférer cet auteur au juge répressif, son action donc est bien répressive en cela. Mais aussi, en même temps, elle est préventive par l'effet d'exemplarité qui s'attache à cette démarche. On ne peut donc pas dire que la police administrative a pour objet de prévenir l'infraction, car l'opération serait en réalité en lien avec une infraction réelle ou supposée, et elle deviendrait judiciaire. La police administrative ne s'intéresse que de façon médiate et indirecte à l'infraction. Ce qui est en cause pour elle, c'est le trouble à l'ordre public. Car même s'il y a infraction, la police administrative ne la considère pas en tant, ne la considère qu'en tant que trouble à l'ordre public, qu'elle entend prévenir ou faire cesser ou rétablir. Cela tient au fait qu'une même situation factuelle peut être saisie conceptuellement, juridiquement, de deux façons différentes, un peu comme un être humain peut être considéré soit comme un homme, sujet de droit, si vous voulez, soit comme un citoyen. Il peut être aussi considéré en même temps comme un justiciable ou comme un contribuable, etc. Prenons l'exemple si simple. Un automobiliste ivre peut commettre ou avoir commis plusieurs infractions. Mais en plus de cela, et avant tout, il est dangereux. C'est un danger pour la sécurité publique. Il y a donc matière à saisir les mêmes faits, la même situation, dans l'une ou dans l'autre de ces deux qualités possibles, d'infraction ou de trouble à l'ordre public. Donc il y a matière à intervenir pour les deux polices, l'une pour dresser procès-verbal d'une infraction et l'autre pour placer le conducteur en cellule de dégrisement, qui est une opération administrative. Pour autant, peut-on dire, sans autre précaution, que la police administrative a pour fin de prévenir les infractions ? C'est une formulation approximative et un peu malheureuse, trompeuse. La police administrative pourrait-elle prévenir la fraude fiscale ? C'est une infraction. Et il ne faudrait pas répondre que la fraude fiscale ne constitue pas un trouble à l'ordre public, puisque précisément, elle constitue un trouble à l'ordre public pénal, puisqu'elle est réprimée. Alors, pour prendre un autre exemple, cette fois-ci dans un domaine plus classique, le maire, sachant que tel de ses administrés va être pris de boisson le samedi soir, comme il l'est tous les samedis, va prendre ou va avoir envie de prendre des mesures contre cette personne. Alors, quels sont donc les moyens pour le maire de prévenir ces infractions ? Peut-il, au titre de la police administrative, prévenir cette infraction ? La question est importante. Comment va-t-il faire ? Est-ce qu'il peut prévenir par une mesure de police judiciaire ? Il faut attendre que l'infraction soit commise ou en train de se commettre. En ce cas, il dressera un procès-verbal. Il pourra même, éventuellement, immobiliser la voiture ou faire immobiliser sa voiture. Mais de quelle mesure de police administrative peut-il s'agir ? Placement en cellule de dégrisement, mais alors ce n'est plus l'infraction qui est visée, c'est la l'ébriété. Et on voit ici que, dans ces conditions, la police administrative n'a pas pour objet de prévenir une infraction. Ce qu'elle vise, c'est bien le trouble à l'ordre public. Il vaut mieux donc dire que la police administrative a pour fin de prévenir les troubles à l'ordre public, même si ces troubles à l'ordre public constituent par ailleurs des infractions. Elle a pour objet de mettre fin à de tels désordres ou de restaurer l'ordre public lorsque celui-ci a été précisément troublé. Mais lorsqu'il s'agit d'une infraction, il faut dire que la police administrative a pour fin non pas tant de prévenir l'infraction directement, même si l'infraction constitue un trouble à l'ordre public, il faut donc ici déceler la pluralité de la façon de saisir ces deux situations. Soutenir que la police administrative a pour fin de prévenir les infractions conduit indéfectiblement à la jurisprudence Mbala, qui consacre une subversion profonde du régime de droit, de l'état de droit, comme on dit maintenant, qui distingue cet état de droit, précisément le régime répressif et le régime préventif. Et cette jurisprudence est gravement attentatoire à la liberté. Car l'arrêté d'interdiction se fondait, dans l'espèce, sur le fait que l'intéressé avait antérieurement commis des infractions et qu'il allait sans doute en commettre à nouveau le soir de l'interdiction. Or, on ne saurait concevoir, on ne saurait admettre qu'une interdiction de police administrative puisse réprimer une infraction, ni qu'une interdiction de police administrative puisse empêcher ou prévenir une infraction en paralysant la liberté dans l'exercice de laquelle une autre infraction allait se commettre. On ne peut pas accepter que le régime préventif puisse subordonner l'exercice d'une liberté à une permission ou à une absence d'interdiction ou une absence de risque d'infraction. C'est pour lors, en un autre sens, le régime répressif qui doit s'appeler, ce qui doit s'appliquer par principe et qui consiste le sujet à prendre des risques d'une poursuite pénale une fois qu'il aura simplement commis la chose. Donc, dire et répéter que la police administrative prévient les infractions comporte encore une application regrettable dans le contexte contemporain, qui est un contexte bouleversé. Un contexte bouleversé. Le contexte auquel il est fait allusion ici, c'est naturellement celui du terrorisme et du développement de toutes les infractions collatérales. Mais c'est aussi le contexte que nous connaissons aujourd'hui de larges mouvements migratoires. C'est le contexte d'une assez grave crise morale et politique. C'est le contexte d'une fragilité sociale et morale qui va susciter l'apparition dans le concept d'ordre public de nouveaux éléments. Et je pense évidemment ici à toute la jurisprudence qu'on a évoquée au cours de ce colloque relative à la dignité de la personne humaine. Mais si l'on s'en tient au terrorisme, eh bien, ce contexte bouleversé est propre à bouleverser le droit, propre à bouleverser les règles de droit qui étaient destinées à régir un autre contexte. En quoi ce bouleversement consiste-t-il ? Factuellement, il consiste dans l'attaque généralisée et radicale par certaines idéologies et des actions qu'elles déterminent l'attaque généralisée contre tout ce qui peut relever de l'ordre juridique libéral, démocratique, républicain, laïque, etc. Juridiquement, ce bouleversement comporte nombre de conséquences. Les mesures d'exception deviennent des mesures immédiatement nécessaires. La distinction entre circonstances exceptionnelles et des circonstances habituelles devient de plus en plus floue et de plus en plus caduque. L'exceptionnel devient normal. L'ordinaire devient exceptionnel, etc. Et on l'a vu, effectivement, tout particulièrement avec les mesures de permanentisation, si l'on peut dire, de l'état d'urgence. Les notions, donc, se confondent, tendent à se confondre, tout au moins. L'ordre public inclut des éléments que l'on n'y aurait pas trouvés antérieurement, même si, aujourd'hui, on s'étonne que l'ordre public puisse viser la sécurité nationale. Quelle affaire ! La notion de sûreté générale a toujours été inscrite dans les buts d'ordre public, même susceptible d'être défendue par un simple maire, pourvu qu'il y ait eu, au niveau national, des dispositions qui le lui permettaient. Mais il n'y a pas que la sûreté nationale ou la sécurité sociale. Il y a les intérêts fondamentaux de la nation, l'intégrité du territoire, l'apologie du terrorisme, la consultation des sites salafistes, etc. Il y a aussi le fait que les valeurs fondamentales de la République, étant attaquées, vont entrer les unes après les autres dans les objets de la police, dans les éléments de l'ordre public. Le renouvellement du contenu de l'ordre public est alors considérable. Je ne fais faire allusion ici à l'ordre public immatériel. Les méthodes de la police administrative tendent alors à se confondre avec celles de la police judiciaire, ou inversement. Mais le rattrapage ici, le rattrapage s'opère, le rattrapage, c'est-à-dire quant aux pouvoirs qui sont donnés, le rattrapage s'opère ici en faveur de la police administrative par rapport à la police judiciaire, mieux dotée à cet égard. Et ces méthodes deviennent plus intrusives, en particulier le renseignement. Mais là encore, il ne faut pas s'en étonner, le renseignement existe depuis toujours, les renseignements généraux existent depuis longtemps, et Fouché a été à son heure aussi l'un des inventeurs de cette police d'information. Plus techniquement, il se trouve que chacun des éléments de l'ordre public se voit protégé par une incrimination. En effet, il se produit aujourd'hui que le législateur tend à remonter dans l'étiologie des infractions, dans les causes qui provoquent une infraction, à remonter de plus en plus vers les sources originaires de l'infraction. Et il se trouve que désormais, alors, chacun de ces faits originaires tend à devenir également un trouble à l'ordre public. La multiplication des infractions préventives, à cet égard, en est une illustration. Mais l'inverse se produit aussi. Toutes les infractions sont désormais protégées par leur incorporation parmi les éléments constitutifs de l'ordre public. Tout cela, donc, entretient une sorte de confusion et certainement nous rend la tâche plus difficile. D'où l'apparence d'une confusion des polices. Mais la confusion ou la porosité est apparente. Ou plutôt, elle est circonstancielle. Fondamentalement, en effet, la dualité police-judiciaire-police-administrative subsiste essentiellement et doit subsister, car elles n'obéissent pas l'une et l'autre à la même logique, aux mêmes fonctions et au même sens. Car en cas de danger concret, actuel, menaçant, effectif, en cas de ce genre de danger, l'exécutif, donc l'administration, remplit une fonction que personne d'autre, qu'aucune autre autorité ne peut remplir. C'est sa responsabilité propre de protéger immédiatement l'état de droit par les moyens dont elle dispose, cette administration, c'est-à-dire le moyen normatif et les moyens coercitifs. Cela ne lui donne pas tous les droits, mais cela, au contraire, lui impose tous les devoirs en restant dans son ordre, qui est celui de la police administrative. La police judiciaire est un autre moyen de garantir l'état de droit, mais dans l'immédiateté de la nécessité, la priorité va à la police administrative. La police est par essence d'abord administrative ou exécutive, si vous voulez, et elle est aussi, par ailleurs, in fine du processus, un phénomène judiciaire. Donc, je reformule ma conclusion initiale. la distinction entre la police judiciaire et la police administrative se brouille dans ses technicités, nous avons vu ça toute la journée, et elle se perd dans les pièges des exigences ou des contradictions de l'état de droit. Et il nous appartient, nous, en tant que législateurs, juges, avocats, universitaires, il nous appartient de déjouer ces contradictions et de les dominer, car cette dualité est vitale, à condition que nous sachions la maîtriser. Ce beau colloque y a contribué certainement. Je vous remercie de votre attention.
Alors il me revient maintenant donc de compléter ces propos qui ont déjà mis l'accent sur la nécessaire distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Il est certain que si la question qui aurait constitué l'essentiel du colloque se serait limitée à cette distinction et aux liens qui peuvent exister entre les deux, police administrative et police judiciaire, cette question n'aurait pas présenté un intérêt très novateur, puisque depuis déjà donc, de nombreuses décennies, pour ne pas parler du siècle dernier, bien la question est étudiée dans les meilleurs traités, que ce soit des traités de droit criminel ou de droit administratif. Et je me souviens, je le disais, je crois, à Étienne Picard, que lorsque j'étais en deuxième année de droit, donc ça fait maintenant quelques années, l'un des sujets portait précisément sur la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. La plaquette, d'ailleurs, m'a causé un certain émoi quand j'ai vu que n'était reproduit que la façade du ministère de l'Intérieur. Je me suis demandé si le sort de la police judiciaire n'avait pas déjà été scellé, n'est-ce pas ? Mais ce colloque nous a montré qu'il n'en était rien. Ce matin, on a commencé pourtant à bien montrer que l'acte de police, qu'il soit administratif ou judiciaire, réagit toujours à un trouble à l'ordre public, utilise la contrainte et a pour une finalité globale la sauvegarde de l'ordre public, ou peut-être un pénaliste utilisera plutôt l'expression d'ordre social, soit en prévenant les atteintes à cet ordre, ou bien, à l'inverse, en essayant de rétablir l'ordre après qu'il ait été déstabilisé. Et donc, il a été rappelé il y a un instant que les deux polices pouvaient effectivement assurer la prévention et le rétablissement de l'ordre. Et on a pu aussi comprendre ce matin par la voix de Serge Slama que la notion d'ordre public évoluait dans le sens du risque de commission d'infraction et que les carences de la police judiciaire pouvaient être comblées par la police administrative. Et c'est par ailleurs le lien entre les deux se renforce quand on sait que les incriminations préventives se multiplient. Mais ce qui est intéressant dans ce colloque, évidemment, c'est l'adverbe « encore ». Donc, a-t-elle encore un sens ? A-t-elle encore un sens ? La question se pose justement après la publication d'un certain nombre de textes liés au développement du terrorisme, la mise en place de l'état d'urgence, la prolongation de l'état d'urgence, la pérennisation de l'état d'urgence sous une autre forme. Toute évolution liée au terrorisme. Effectivement, on peut s'inquiéter de ce que l'on envisage l'éventualité d'une fusion des deux polices à partir d'une situation exceptionnelle comme l'est celle qui est issue des attentats terroristes et qu'on peut avoir du mal à remettre en cause l'ensemble pour une raison très particulière. Et donc je ne peux que me féliciter d'entendre depuis ce matin qu'il faut maintenir la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Et en tant que pénaliste, je ne peux que m'en réjouir et peut-être proposer à ce moment-là une complémentarité de ces deux polices. Et que la police judiciaire apporte sa contribution, sa collaboration à la police administrative. Alors que reste-t-il de cette distinction au regard de la police judiciaire? Quelles sont finalement les spécificités que l'on pourrait relever concernant cette police judiciaire pour lui garder son identité, son autonomie en quelque sorte? Je crois que la réponse, elle se trouve dans le qualificatif même qui est adossé au mot « police ». On parle donc de police judiciaire. Et si on parle de police judiciaire, c'est parce que la police en question est une police investigatrice et c'est une police qui est judiciarisée. Ce que n'est pas dans les mêmes termes et avec la même force, et surtout pour le deuxième élément, la police administrative. Alors d'abord, la police judiciaire, c'est une police investigatrice. Tous les actes de police que nous avons vus aujourd'hui et qui ont fait l'objet de regards croisés présentent de grandes similitudes, de grandes analogies, même s'il y a, je le rappellerai tout à l'heure, des différences. Mais au-delà de ces similitudes, il ne faut jamais oublier que la finalité intermédiaire, puisque la finalité globale est le terme ultime, c'est le même que celui de la police administrative, c'est-à-dire la protection de l'ordre public, mais la finalité intermédiaire, c'est la recherche d'une vérité judiciaire. Il y a un texte que l'on n'a pas cité, probablement parce qu'on n'avait pas à le faire selon les thèmes proposés, c'est l'article 14 du Code de procédure pénale, selon lequel il est dit que la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte. Et lorsque l'information est ouverte, alors la police exécute les délégations du juge d'instruction, toujours dans la perspective de permettre à ce que le dossier de l'affaire pénale puisse être utilement jugé par la juridiction de jugement. D'où la fameuse enquête de police symbolisée par le 36 quai des Orfèvres et par le commissaire Maigret. À l'origine de l'enquête de police, qui forme la matière même de la police judiciaire, vous avez soit une plainte, soit une dénonciation, soit la révélation d'un certain nombre de faits qui sont graves ou qui sont complexes, et qui vont permettre aux enquêteurs de rassembler des indices. Même d'ailleurs avant que l'indice ne se révèle, il y a souvent des soupçons, et des soupçons qui sont suffisants pour justifier tel ou tel acte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un soupçon? Et on en a parlé aujourd'hui quand même à plusieurs reprises. C'est, je pense, le résultat d'une alchimie savante qui associe des éléments objectifs et des éléments subjectifs. Donc, le soupçon, c'est le doute de l'enquêteur sur la participation de telle ou de telle personne aux faits révélés. Et Monsieur Éric Camus, ce matin, donc, a bien insisté, même insisté cet après-midi, sur le fait que l'enquête de police et que la justice pénale étaient orientées justement vers les personnes, vers le moyen de faire juger donc un individu. Alors ce soupçon a un nom dans le code de procédure pénale, voire même dans le code de la sécurité intérieure, ce sont ces fameuses raisons plausibles auxquelles le législateur fait référence sous des formulations différentes, mais qui sont toujours une formulation qui permettent d'accroître les pouvoirs de la police. Avec le soupçon, on est très en amont de la procédure. C'est pour cela que cela peut rejoindre la fonction préventive de la police administrative. Simplement, en matière judiciaire, le soupçon n'est pas simplement utilisé pour légitimer un acte de police immédiate. Le soupçon, c'est un point de départ, n'est-ce pas ? Il a un effet déclencheur, puisqu'il est destiné à se transformer, en indice matériel solide, indice qui deviendra plus tard une charge, si une instruction est développée, et puis qui ensuite deviendra une preuve de culpabilité. La Cour de cassation contrôle justement la plausibilité du soupçon de façon à ce que on soit en présence d'un soupçon, comme elle le dit, objectivé, c'est-à-dire qu'il faut un soupçon qui soit confirmé, vérifié, et c'est pour ça que vous avez donc l'enquête, les investigations qui sont menées par la police judiciaire. Alors, il y a une disposition dans le code de la sécurité intérieure qui vient un peu troubler ce que je vous dis, puisque je laisse entendre que la police administrative n'a pas pour fonction la recherche de la vérité. C'est un texte dont on n'a pas parlé non plus, donc qui n'est pas une mesure de police au sens direct, mais enfin qui en est une quand même d'une certaine manière, c'est la mise en œuvre d'un traitement des données à caractère personnel qui est déclenché par soit le ministre de l'Intérieur, soit le ministre de la Défense, c'est les articles 13 et 14. Si je cite l'article 13, c'est parce qu'on y retrouve une certaine analogie avec l'article 14 du Code de procédure pénale sur la fonction de la police judiciaire. Je le cite, il est écrit « Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves, donc de ces infractions, ainsi que de la recherche de leurs auteurs, donc le ministre de l'Intérieur, etc., peuvent, etc. » Et il y a toute une liste d'infractions en question, et si vous y reportez, c'est l'article, je crois qu'il y avait l'article 694-32, et vous apercevez que la liste donc, est tout de même assez longue et que ça concerne des infractions ayant une dimension internationale. En tout cas, on voit bien que dans un domaine qui n'est plus celui exclusivement de la police judiciaire, il y a là un îlot qui permet tout de même de remplir la même fonction que celle qui est traditionnellement attribuée à la police judiciaire. S'agissant des actes de police judiciaire eux-mêmes, le colloque se limitait aux trois thèmes les plus importants, c'est-à-dire les mesures de vérification, les mesures de recherche et les mesures de surveillance. C'est en cela que l'on peut dire que ce sont des mesures qui présentent évidemment quelques similitudes, qu'elle soit utilisée par la police judiciaire ou par la police administrative. Formellement, au niveau des sources, le régime juridique de ces mesures figure soit dans un seul code, c'est le cas pour les contrôles d'identité et les vérifications d'identité, administrative ou judiciaire, puisque se trouve dans le code de procédure pénale, En revanche, donc, pour les autres, eh bien, vous avez à la fois donc, un régime juridique prévu, soit dans le code de la sécurité intérieure, soit dans le code de procédure pénale. Donc, mais matériellement, le procédé est identique. Bon, il n'y a pas, si vous voulez, différentes manières de procéder à une perquisition ou à des écoutes téléphoniques ou à un contrôle d'identité. Ce qui va les différencier, eh bien, ce sont les autorités donc, qui les ordonnent. C'est, pour reprendre ce qu'a rappelé ce matin Benjamin Lavergne en citant Jean Ellul, l'usage que l'on en fait, c'est l'objectif qui est, pour ce qui me concerne la police judiciaire, d'établir la culpabilité d'individus ou bien de rassembler des faits donc, ou de permettre des confiscations. Donc, il y a également, donc, on l'a vu tout à l'heure à propos des perquisitions, et des visites administratives, donc, eh bien, une différence, puisque les perquisitions judiciaires doivent être en relation avec les faits incriminés, donc, d'où des différences quant aux locaux, donc susceptibles d'être perquisitionnés. On a pu voir aussi, je n'ai pas le temps évidemment de le développer, toutes ces nuances quant au contrôle exercé par le juge donc, des libertés et de la détention. Mais il n'en reste pas moins donc, que ce sont bon, des procédés bon, qui vont, vont être, qui peuvent être matériellement, donc, sinon il n'aurait pas été prévu par les textes, peuvent être utilisés donc, par les deux polices. En revanche, il y a d'autres actes de police donc, qui alors, donnent justement, qui forme aussi le cœur du travail des enquêteurs et qui, là, ne peuvent pas être utilisés à moins de verser dans un état totalitaire par la police administrative. Eh bien, je veux parler donc de la garde à vue, voire même de l'audition libre d'un suspect, bon, des infiltrations donc, de réseaux criminels. Bon, ce sont... à mon sens, des actes de police judiciaire à l'état pur. Cela. Bon. C'est-à-dire que, véritablement, donc, eh bien, on ne voit pas comment, si on globalisait bon, la police, on pourrait, comme cela, donc, eh bien, permettre alors donc, à des autorités de police administrative donc, de recourir. Cela a été. Avant 1993, le préfet avait la possibilité, en matière d'infraction contre la sûreté de l'État, donc, de faire placer en garde à vue. Mais justement, donc, ces mesures ont aujourd'hui disparu. Donc voilà déjà donc, un premier point, je pense, qui permet de montrer bon, que effectivement la police judiciaire donc, doit pouvoir survivre donc, à l'époque dans laquelle nous sommes, c'est que donc, c'est une police essentiellement investigatrice. C'est une police qui est également judiciarisée. Et en disant cela, je veux insister sur deux points. D'abord, montrer que la police bon, judiciaire fait partie intégrante bon, d'un processus judiciaire et, d'autre part, eh bien, que la police est placée sous le contrôle bon, de l'autorité judiciaire. D'abord, elle est partie intégrante d'un processus judiciaire. Là, vous avez également des textes qui nous le disent, les articles 12 et 13 du Code de procédure pénale, qui prévoient que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, qui est placée sous la surveillance du procureur général et contrôlée par la Chambre de l'instruction. Et si ces textes, enfin, si ce contrôle et cette direction est ainsi attribuée à des magistrats, eh bien, c'est parce que la police est un maillon indispensable bon, de la chaîne pénale qui puise son origine dans l'infraction et trouve son aboutissement dans le jugement. quitte à forcer le trait, on peut dire que bon, la police, c'est le bras armé du magistrat. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que l'officier de police judiciaire est tenu de recevoir les plaintes, de les transmettre au service de police compétent. Donc, il est tenu d'informer le procureur donc, de toutes les infractions dont il peut avoir connaissance. Donc, la police judiciaire ben, s'inscrit délibérément dans la conduite de l'action publique qui, à elle seule, d'ailleurs, exprime tout le procès pénal. Alors cette activité de la police judiciaire donc est loin d'être négligeable puisque et là donc bon je pense que vous devez connaître l'évolution que peut connaître aujourd'hui l'enquête préliminaire, puisque ça fait maintenant de nombreuses années donc, que l'enquête préliminaire devient la rivale donc, de l'instruction et que les pouvoirs de police, justement, s'accroissent et que ces pouvoirs sont destinés, d'ailleurs, à s'accroître encore plus si l'on en croit bien le projet de réforme de la procédure pénale qui est actuellement en débat devant le Sénat. Donc, de ce point de vue-là, il est clair que la police judiciaire n'est pas dans une situation difficile donc, face bon, à la police administrative. Quant au contrôle de l'autorité judiciaire, il prend plusieurs formes. D'abord, la police judiciaire est elle-même contrôlée par l'autorité judiciaire par le biais des habilitations donc, qui sont attribuées aux officiers de police judiciaire. Mais il faut bien reconnaître que ce contrôle n'est pas facile parce que, justement, statutairement, et cela concerne principalement les fonctionnaires de la police nationale, eh bien, ils sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Et il y a plusieurs exemples qui sont maintenant assez anciens, mais il y en a peut-être des nouveaux qui n'ont pas été médiatisés, où bien des magistrats ont eu du mal à empêcher certaines actions, certains actes de police qui étaient illégaux. La première affaire est une affaire, les deux affaires d'ailleurs remontent à une vingtaine d'années. La première concernait des écoutes téléphoniques qui avaient été mises en place dans le cadre d'une enquête préliminaire à une époque où cela n'était pas possible, sans que le procureur de la République ait pu apparemment empêcher l'utilisation de ces interceptions de correspondance. Donc, et la seconde affaire, eh bien, c'est l'affaire qui a conduit à entraver une perquisition donc, dans un local à Paris qui appartenait au maire de Paris, donc, suite au refus par la police judiciaire de collaborer et d'exécuter la commission rogatoire du juge d'instruction. Et je me souviens d'ailleurs personnellement qu'à cette époque-là, eh bien, le juge d'instruction qui était en charge des dossiers à Orléans, donc qui n'avait rien à voir avec cette affaire, m'avait dit que maintenant, ça faisait déjà plusieurs semaines, qu'il n'indiquait pas aux officiers de police judiciaire qui étaient convoqués au palais de justice eh bien, le lieu de la perquisition, ou du moins qu'il ne le découvrait qu'au dernier moment, c'est-à-dire au moment où il demandait de pénétrer dans le local. Bon, tout cela, c'est une question, évidemment, de rapport entre la police et la justice, mais ça montre aussi bon, que le statut bon, des fonctionnaires de police, donc sont des fonctionnaires, puisque les fonctionnaires de police remplissent à la fois des fonctions de payeur de police administrative et de police judiciaire, ne facilitent pas la tâche donc, de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, d'ailleurs, s'était inquiétée en 2014, eh bien, de l'extension des pouvoirs du parquet et de la police, et avait demandé, enfin, il demande qu'il y ait une juridictionnisation de l'enquête. Donc, et qui peut remplir cet objectif si ce n'est une fois de plus le pauvre juge des libertés donc, et de la détention qui est déjà bien à la peine? Il y a un autre contrôle qui est exercé par l'autorité judiciaire, c'est cette fois-ci celui du périmètre. de l'action de la police judiciaire. Alors, ce sera le cas bien contrôles d'identité, notamment contrôle d'identité judiciaire, contrôle d'identité administratif. Et là, donc, on en a parlé ce matin et cet après-midi. Donc, eh bien, il y a la motivation donc des procès-verbaux est évidemment essentielle. Bon, et les conditions posées par la loi sont loin d'être simples, puisque il est difficile, en fait, de distinguer l'existence d'une ou de plusieurs raisons de soupçonner que la personne se prépare à commettre un délit, ce qui renvoie au contrôle d'identité judiciaire, et la présence d'une personne qui, quel que soit son comportement, laisse supposer une atteinte future à la sécurité des personnes donc, ou des biens. Et la jurisprudence est abondante, et le professeur Toulier donc, a rappelé cette jurisprudence tout à l'heure. Il y a un autre contrôle qui se pose, c'est lorsque la police administrative se comporte comme une police judiciaire, qu'elle se glisse en quelque sorte dans les vêtements de la police judiciaire. À ce moment-là, donc, il s'agit soit, bon, comme le cas des contrôles d'identité administratifs, où on sait depuis quand même bien longtemps que c'est la Cour de cassation qui contrôle bien la légalité des contrôles judiciaires, des contrôles d'identité administratifs. Et puis, c'est évidemment bien le problème qui nous a retenu longuement cet après-midi, bien de savoir dans quelle mesure l'autorité judiciaire, gardienne alors des libertés ou de la liberté individuelle, bien peut s'assurer du respect donc de ces libertés lorsque il ne s'agit plus alors d'actes de police judiciaire au sens strict, mais d'actes de police administratifs, mais qui ressemblent ou qui se dissimulent derrière des actes de police judiciaire. Bon, c'est tout ce que l'on a pu voir sur les fouilles, les perquisitions, les surveillances donc et assignations à résidence. Donc là, de ce point de vue-là, il est clair que le contrôle, et on l'a dit, donc le contrôle est plutôt confié au juge administratif, qu'il y a une marginalisation donc, l'autorité judiciaire. Donc il y a quelques instants encore, le procureur Chevalier donc, pensait que le juge administratif détient des moyens qui sont tout aussi efficaces que ceux détenus par l'autorité judiciaire. Je fais remarquer d'ailleurs que Bertrand Louvel, qui a été cité et qui, lui, considère qu'il faut avoir une interprétation large de la liberté individuelle et qu'il donne des raisons tout à fait solides, à mes yeux, ne serait-ce que parce que le Conseil constitutionnel a quand même consacré cette interprétation large durant de très nombreuses années. Bon, je ne vois pas pourquoi, donc, ce qui a été dit et ce qui a été soutenu il y a 30 ans ou 20 ans ne serait plus valable aujourd'hui. Mais surtout parce que Bertrand Louvel, dans l'article auquel il faisait référence, reconnaît lui-même que le juge administratif a fait beaucoup de progrès du point de vue du contrôle des actes de police. Bon. Donc il n'est pas non plus dupe de l'intérêt, enfin disons de la garantie que peut offrir le juge administratif et qu'il n'y a pas que l'autorité judiciaire qui le peut. Mais de ce point de vue-là, je rejoins les propos de Maître Pinatel qui mettait l'accent sur le danger de toute dispersion du contrôle. Et je trouve aussi qu'il serait préférable et qu'il est préférable qu'il n'y ait qu'une seule autorité donc, qui soit compétente pour garantir la liberté au sens large. À ce moment-là, eh bien, on y mettrait les violations de domicile, les atteintes au respect de la vie privée. De toute manière, quand il y a la mise en place d'un périmètre de protection, Certes, ce n'est pas une atteinte à la liberté d'aller et venir comme on l'entend, mais enfin, il y a quand même derrière cela une limitation de faire ce que l'on veut. Donc, dans ce périmètre, puisqu'il y a un contrôle à l'entrée. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans ce cas présent, l'autorité judiciaire ne pourrait pas intervenir. Alors, il est. dès que. Une brèche peut s'ouvrir, eh bien, le juge judiciaire s'y engouffre, et c'est le cas avec l'article 111-5 du Code pénal, chaque fois que des poursuites judiciaires chronologiques qui suivraient chronologiquement un acte de police administrative pourraient trouver son fondement dans une décision, dans un arrêté qui serait illégal. Dans ce cas, le juge judiciaire et la Cour de cassation considèrent qu'il y a un contrôle qui peut être exercé. Donc, pour en terminer, je dirais que, et ce n'est pas original ce que je vais dire, mais enfin, que ce n'est pas parce que le législateur a fait en sorte, pour des raisons très particulières, liées encore une fois au développement du terrorisme, a fait en sorte que la police administrative puisse avoir un domaine élargi, qu'il faut en tirer les conséquences et aller vers une globalisation de la police. Je pense qu'il vaut mieux que chacun reste dans sa cour et qu'il y ait évidemment une complémentarité entre les deux polices. Chaque fois que cela peut s'imposer. Et à mon sens, que c'est quand même dans ce sens-là, si vous voulez, que la législation contemporaine a été mise en place, puisqu'il faut répondre à une urgence et qu'il faut aussi répondre à une demande des citoyens qui considèrent qu'ils ont un droit à la sécurité. C'est faux, d'ailleurs, puisque la sécurité n'est pas un droit. Bon. C'est écrit dans le Code de la sécurité intérieure, c'est le premier article, c'est un droit fondamental, mais en réalité, la sécurité n'est pas un droit, c'est un devoir de l'État. Ce qui est un droit, c'est le droit à la sûreté, mais pas le droit à la sécurité. Mais à partir du moment où on estime qu'il y a un droit à la sécurité, les citoyens, comme c'est un droit fondamental, quand il y a un conflit de liberté, les citoyens sont prêts à abandonner et à accepter des limitations d'autres libertés au nom de la liberté fondamentale qu'ils estiment devoir être respectée et protégée au plus haut point. Voilà ce que je peux dire du point de vue de la police judiciaire et de ce qui reste, puisque c'était la question qui nous était posée, de ce qui reste de cette distinction pour la police judiciaire. Je vous remercie.